Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour Parler temps qui court. Tous les soirs, une conversation d'une heure. Et ce soir, avec Olivier Martin-Salvan.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler, papi.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Parler temps qui court.
Marie Richeux avec Olivier Martin-Salvan.
Tout commence dans l'obscurité, mais la lumière bruisse soudain. C'est une idée, une hallucination, un éclair qui insiste et qui gratte. Ensuite apparaît un corps, vêtu d'une robe lamée au large col et traînant avec lui d'autres robes ou laits de tissus cousus ensemble. Alors savoir comment on peut coudre des choses ensemble et les faire tenir, même avec fragilité, c'est un des risques que prend votre dernière création, Olivier Martin-Salvan. Tour à tour, vous prononcez des textes que Michel Thévaux, premier conservateur de la collection d'art brut à Lausanne, réunissait dans son livre « Écrit brut », publié en 1979. Parmi eux, les mots de Jacqueline, cette femme née en 1918 qui perd sa mère à 11 ans, vit une vie compliquée avec un certain monsieur Béril et est porteuse d'une langue éminemment puissante. Ou encore les mots de Marguerite Pilonel qui en 1942 adresse à son fiancé d'époux une vibrante missive se concluant ainsi « Maintenant que le temps devient favorable et que le printemps est bien là, viens me chercher au plus vide. » C'est dans une cage que le musicien Philippe Foch trouve à vos côtés une très grande liberté, une grande délicatesse de jeu. Le spectacle s'appelle, comment faut-il dire, Jacqueline ?
Jacqueline, écrit d'art brut.
Écrit d'art brut, bonsoir à vous
bonsoir.
Et bienvenue.
Merci.
Il se joue en ce moment au 104 à Paris, c'est dans le cadre du festival Les Singuliers, c'est jusqu'au 15 janvier. Et ensuite il tourne, on peut dire qu'il sera à la Maison de la Culture de Bourges, 28-29 janvier, 4 et 5 février au Théâtre de Bayonne, cette nationale du Sud, Aquitaine, 12-15 février à Saint-Étienne, au Théâtre Forum Mérine, ça c'est en Suisse, au TNB à Rennes le 3 mars... Et c'est jusqu'au mois de mai, vous serez à Quimper. Comment ça va 2020 pour vous ? Vous faites des vœux ou qu'est-ce que vous faites, vous, quand l'année commence ?
J'essaie d'avoir de bonnes résolutions, ouais.
Changez du côté du lit ?
Oui, je change du côté du lit, j'ai du mal à me projeter à ça, mais... Non, mais 2020, j'aime bien en fait, 2020. Quand je l'ai écrit sur un chèque, je me suis dit que j'aimais beaucoup cette année. On n'a pas souvent comme ça des... Voilà, le 2020, si, en 1110...
Mais en 1919
était... Oui, 1919, ouais, je me rappelle. Je me rappelle souvent, j'aimais beaucoup le 1er janvier 2001, le 7 juillet 2007, ça pourrait être pour les auditeurs de se rappeler ces journées-là, comme ça, les 777 ou les 888. Je me rappelle très bien du 777 parce que je faisais la création dans la cour d'honneur de l'acte inconnu avec Valère Novarina, c'était mon premier spectacle avec lui, qui a été très important dans la découverte de l'art brut, et on en parlera ensuite.
Ce spectacle-là ou Valère Novarina lui-même?
Valère Novarina lui-même, et donc c'était ma première expérience avec cet auteur qui m'a bouleversé et qui m'a fait rencontrer ces textes-là. Mais c'est vrai que cette année 2020, en plus ma famille travaille dans le vin, donc il y a quelque chose comme ça qui va marcher.
Qui fait signe, quand
ouais,
même.
Je crois.
Bon, très bien, on vous la souhaite rebondissante 2020.
Oui.
Ça rebondit,
oui,
de l'un à l'autre.
Je suis tout à fait d'accord.
On est d'accord ? Très bien, que ça rebondisse alors. On commence en écoutant un extrait du spectacle.
J'ai eu trois maris. J'ai eu des trillions, des billions d'enfants. Entre autres, une portée de 400. L'aîné s'appelle Urteran. Je n'ai pas de filles. C'est tous des garçons. On me les a mis en jupon, mais c'est tous des gars. Ils sont en bas, dans les bas-fonds, où on leur fait supporter des vices monstrueux. de les cuire en pain et de me les donner à manger. J'ai été un mal de scobène, mal de grands phénomènes, mal de grande durée. Je suis le commencement du monde et j'ai vécu des siècles.
Olivier Martin Salvan, c'est une des premières choses que vous dites sur scène, ce texte-là. Et il pose d'emblée plusieurs fils, c'est le cas de le dire, qui vont comme ça se dérouler, et qui vont peut-être faire tenir ensemble ce qu'on entend. La question du corps enceint ou du corps enceinte.
Bravo.
Vraiment du corps. Merci. Qui porte des choses. Le temps, le langage, je suis le commencement du monde, mais j'ai aussi une grande vie. Comment est-ce que vous avez décidé de commencer comme ça? Parce qu'il faut bien commencer par un bout et ça ne doit pas être facile.
Ça, c'est sûr. Vous avez cité la fin du spectacle qui, pour moi, vient me chercher au plus vide. Ça, c'est sûr qu'on ne pouvait pas ne pas finir comme ça. Ben, si les auditeurs viennent voir le spectacle, qui, pour la petite affaire, on a une date supplémentaire, on joue jusqu'au 16 janvier. Donc voilà.
Ah, au 104
voilà,
à Paris.
Ouais, ça. D'accord. C'est chouette qu'il y ait une date en plus sur Paris, parce qu'il y a pas mal de gens qui veulent voir le spectacle. Et ce premier, bah voilà, vous avez raison, souvent les vieux acteurs me disaient, de toute façon, soigne ton entrée, soigne ta sortie. C'était un peu des phrases de grands acteurs qui me disaient ça, c'est très important, c'est de ça qu'on se rappelle. Et donc l'ouverture, c'est assez beau à entendre comme ça. J'espère que les gens sont saisis, parce que c'est un texte anonyme. C'était une Parisienne qui était internée à Sainte-Anne. Bah, je dis une Parisienne, mais en fait, je suis allé à Sainte-Anne à la bibliothèque récupérer ce texte et qui est vraiment archivé. La dernière personne qui l'a récupéré en 46, c'était André Breton. C'est marrant, j'ai su ça par Annie Lebrun, qui est une amie qui nous a aidé sur ce spectacle. Elle m'a dit, j'en ai entendu parler de ce texte, puis après, j'en ai plus entendu parler. Puis toi, tu m'en rappelles toutes ces années après, ces dizaines d'années après. Et la bibliothécaire m'a dit, j'avais entendu parler qu'André Breton était venu chercher ce texte. Et puis, ça me fait drôle que moi, à la fin de ma carrière de bibliothécaire à Sainte-Anne, vous veniez chercher ce texte, qui est un texte anonyme. Et elle dit, moi, je pense, c'est pas sûr que ce soit une femme ou un homme. Elle dit, voilà, il y a tellement dans les textes qu'on a récupérés, homme-femme, le genre, c'est tellement, c'est mélangé, quoi. Et ce texte, c'était un peu de l'art-thérapie avant l'heure, quoi. Et le médecin avait demandé à ces femmes, c'était principalement des femmes qui écrivaient à cette époque-là, et elles ont écrit leurs symptômes. Et celui-là, j'ai trouvé assez incroyable parce que tout d'un coup, c'est comme si elle inventait un langage. Elle est un peu sortie de l'exercice de style de raconter. Il y en a plusieurs qui parlaient. J'ai comme des pics qui rentrent dans ma tête. C'était des textes vraiment très glaçants. Et elle est partie. Voilà, je suis le devoir du trimystère du Finistère. C'est comme si elle était un peu hors sujet pour le contrôle. Mais elle est partie dans une logorée comme ça que j'ai trouvé très bouleversante. Ouais.
Et à cette idée aussi, elle commence par dire, j'ai des trillions d'enfants. Ça dit aussi que ce sont des voix qui sont très peuplés en fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours un corps qui parle, c'est le vôtre, et en même temps vous trimballez cette espèce d'immense cape de robe cousue qui fait aussi référence à une œuvre assez connue qui est conservée à Lausanne, où comme ça une robe est faite de pièces de robe.
Gilles,
exactement. Mais ça dit aussi qu'il n'y a jamais vraiment qu'une seule personne qui parle.
Oui, très bien, c'est vrai, c'est très juste ça. Ouais. On s'est beaucoup posé la question aussi du montage, parce que pourquoi le spectacle Jacqueline? Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis demandé si je n'avais pas à dire que le texte de Jacqueline, qui est déjà un texte, nous, on a pris, j'ai fait des coupes quand même, parce qu'il y a des choses en cycle, et je m'étais dit, faut quand même que ça resserre. Ça dure près de 18 minutes, quand même, le moment de Jacqueline, qui est presque, donc, un quart du spectacle. Mais il y a 25 minutes, en fait, d'enregistrement de cette femme qui a parlé, comme ça. On en parlera, si vous voulez, un peu plus tard. Et c'est vrai que je me suis posé la question de comment on ne fait pas un medley, comme ça, de un peu d'enchaînement de textes de périodes différentes, de pays différents aussi. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, c'est plus moi, Olivier Martin Salvan, qui convoque un peu les fantômes, en fait, que je suis traversé par elles et eux, même si c'est une majorité d'écriture de femmes. Et ça, c'est pas du tout par la mode ou par le quota, c'est que c'est vraiment dans les ateliers d'écriture dans les hôpitaux, c'est surtout les femmes, quand les ateliers des théâtres, c'est surtout des femmes qui viennent faire de l'art. Donc et ça a été très bouleversant de rencontrer toutes ces personnes. Je sentais la souffrance, l'enfermement mental et physique, et je me suis dit, mais moi, en fait, je vais être un peu l'instrument de faire entendre des œuvres qui étaient enfermées beaucoup dans des cartons que personne n'avait vraiment entendu, dont ce texte, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, les gens qui ont vu l'original l'ont lu, quoi.
Vous voulez dire le premier texte que
vous
dites.
Oui, ce premier, là, avec la robe brune et qui arrive un peu, on appelle ce texte l'ogresse, un peu. Mais vous avez raison pour Ancin, parce que moi, j'en ai parlé avec la bibliothécaire, je lui dis, bon, nous, les acteurs, c'est vrai qu'on n'est pas des grands spécialistes littéraires, peut-être pas, mais nous, on infuse les textes, on les apprend, on le dort dessus, et d'apprendre, prendre par cœur, quoi, c'est vraiment pas rien. Et moi, quand j'entends à la fin, je suis raclé, tous mes enfants, on me les donne à manger. Et en fait, j'ai demandé à un psychanalyste qui avait vu ce texte, il m'a dit, oui, je pense que c'est une femme qui a beaucoup avorté, en fait. Et il y a quelque chose de se racler, de qu'elle n'ait pas d'enfants. Et ça a été très bouleversant. Et en fait, la sédimentation de ce spectacle, j'ai mis près de 12 ans à le faire, parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens, j'avais des centaines de textes. Et très vite, en fait, il y a eu cette évidence de ces 6 textes-là qui sont venus un peu.
Très vite ou en 12 ans?
En 12 ans, j'ai amassé beaucoup de textes, ouais. Mais très, très tôt, j'en avais au moins 3 que je savais qu'il fallait qu'on dise, souvent avec Philippe Foch, de qui on parlera, le musicien qui est avec moi. Lui, quand je disais les textes, je sais que ça résonnait très puissamment et il avait envie de jouer sur certains et d'autres, il avait moins envie de jouer. Donc, c'est vrai que comme c'est vraiment l'hymne à l'intuition, à la pulsion créatrice, lui aussi, il est beaucoup là-dedans. Donc, l'adaptation s'est fait un peu dans la grande beauté de l'intuition, quoi.
Alors, peut-être que vous avez une intuition forte pour cette Jacqueline, si forte qu'elle donne le titre à ce spectacle-là. Vous le dites que vous avez coupé un peu. Il faut parler, parce que c'est pas un texte écrit, c'est un enregistrement.
Exact.
C'est une femme qui est internée à Bruxelles. Qu'est-ce qui fait que celle-ci, elle vous parle, peut-être pas plus que les autres, mais c'est fortement. Si, plus que les autres.
Non, je les aime toutes très fort, et tous, hein. Mais, et puis j'ai vraiment envie de les défendre, et quelque chose que c'est des gens en souffrance qui se sont. Et puis même pour les droits, j'ai fait très 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 attention d'aller dans les institutions, de leur en parler. J'ai rencontré des gens aussi, j'ai failli dire des textes de gens encore vivants. Un jeune autiste trisomique qui vit sur l'île d'Oléron, qui s'appelle Sacha. Je pense que j'en ferai quelque chose un jour, il fait des listes sublimes. Et Jacqueline, en fait, ce qui m'a touché, c'est que cette femme, quand on voit la biographie, c'est qu'elle a eu une vie normale, un institut de beauté. Et tout d'un coup, il y a eu quelque chose dans sa vie qui a fait qu'elle est passée de l'autre côté. Elle a été internée et pendant 48 heures elle a eu une énorme crise, et en fait j'ai su par des Taïsir Fadel, qui est notre dramaturge et qui est psychanalyste aussi, m'a dit dans la psychanalyse, des fois de partir en crise permet de soigner, des fois c'est des façons de soigner, et cette Jacqueline, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cette grande crise de 25 minutes qui a été enregistrée, et elle est rentrée dans sa chambre, et le lendemain ils ont fait un test, ils se sont rendu compte que elle était guérie. Vraiment, même dans la biographie de livre de Michel Thévaux, il y a écrit elle est maintenant guérie, et elle est retournée dans sa vie, elle a écouté l'enregistrement, elle a dit je vois pas trop de quoi vous me parlez, et elle est retournée dans la vie normale. C'est ça qui me trouble chez elle, c'est que c'est de loin le texte le plus fou que j'ai découvert. Et
fou,
c'est-à-dire d'invention, de comment l'imaginaire, de partir dans des ruptures presque tous les 3 mots, et comme si toute la pensée était déversée. C'est-à-dire que c'est pas dans le bon ordre, en fait, les mots. Et en même temps, le spectateur a un plaisir, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais le spectateur tire un fil, suit une racine de l'arbre, et on se retrouve sur la cime ensemble, et on n'a pas du tout pris le même chemin. C'est ça que j'aime très fort au théâtre, c'est que c'est l'imaginaire qui est premier, et comme Valère Novarina, avec qui j'ai beaucoup travaillé, me disait, une bonne représentation, c'est quand le spectateur est touché individuellement, et en fait c'est plusieurs 1-1-1, quoi, comme le chiffrage, le codage, tout ça. Et ça, je me dis, c'est vrai que ça, c'est notre rôle, et ces textes sont très très bouleversants parce que on vit une expérience vraiment collective au théâtre et intime. Et cette Jacqueline, je sens que c'est une femme comme nous, j'allais dire, mais une femme ou un homme comme nous, qui est sur le bord de la falaise des Trotta, elle a chuté, elle s'est rattrapée à une racine, elle est remontée. Et quand je dis fou, c'est-à-dire qu'il y a un Jules Doudin qui se gratte jusqu'au sang, qui est le deuxième texte, lui.
On l'entendra tout à l'heure.
Les symptômes qu'on écoutera, vous allez voir, c'est carrément troublant. Et lui, il se scarifiait, il se grattait la tête jusqu'au sang parce qu'il sentait les souliers de son médecin. Il redéfaisait son lit toute la journée. Il dormait côté gauche, lui. Et donc, ça a été très puissant pour lui de découvrir l'écriture. Il arrêtait de se maltraiter. Mais lui, il était très, très enfermé mentalement. C'était quelqu'un de très fou. Et quand je dis que ses textes sont forts, ils sont presque moins délirants que ce Jacqueline. C'est ça que je trouve troublant. Et souvent, quand les gens sortent du spectacle, c'est ce que j'espère, c'est qu'on se dit, mais c'est quoi la différence? On n'est quand même pas très loin d'entendre une Jacqueline. Qu'est-ce que dans notre vie, il se passe pour qu'on puisse tomber comme ça et y revenir. C'est fragile tout ça. Je sais que c'est pas bien de trop dire parce que c'est un peu vibrant, mais c'est même bien de se dire que ben le bord de route, il est vraiment tout près, quoi. On est tout le temps sur ces routes escarpées montagneuses et il faut pas avoir peur, faut qu'on soit solidaire.
À votre place, la semaine dernière, il y a Jeanne Balibar qui disait exactement ça, Olivier Martin Salvant, qui disait « Faire de l'art, c'est simplement dire qu'on sait qu'on danse au bord de l'abîme. »
Oh là là, et eh ben bravo. Elle est, c'est très très juste.
Ça. Non mais c'est très étonnant, comme ça, à quelques jours d'intervalle, et au même micro, finalement, les choses assez similaires se disent là-dessus. Mais ça dit aussi le statut très particulier des textes que vous dites.
Oui, oui, oui.
Là, vous le dites, bon bah voilà, cet enregistrement de cette femme, Jacqueline, c'est une crise.
Oui.
C'est une crise de délire, donc c'est la médecine le renseigne. La médecine dit ce que c'est une crise de délire, et puis en le mettant sur scène, ça peut être autre chose.
Oui, tout à fait.
Ou est-ce que vous dites que non, c'est, ça continue d'être ça, mais vous le mettez sur scène. Est-ce que ça bouge? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui. Bah, pour moi, en fait...
C'est pas un poème qu'elle écrit, Jacqueline.
Oui, tout à fait. C'est un cri qu'elle fait, et moi, ce que je trouve beau de le faire au théâtre, parce que évidemment que... Moi, en disant ces textes, pour ça que derrière, moi, je donne beaucoup les transcriptions des textes. Après, c'est très important qu'il y ait des bords plateaux. Et puis, ben, merci de m'inviter parce que je trouve ça toujours intéressant que même si les gens voient pas le spectacle, ils viendront peut-être en province ou à Paris, mais que on parle de ça, que c'est des gens qui étaient un peu en dehors de l'histoire de l'art. On dit aussi, c'est-à-dire que j'ai vraiment la moitié des textes sont des textes que j'ai récupérés dans des cartons. On dit, on sait pas trop quoi en faire à Fribourg ou en Suisse ou en Belgique. Et ce que je trouve très bouleversant, c'est que moi, pour que les gens, si ça peut les intéresser à aller découvrir l'art brut, parce que c'est un mot, comme ça on dit, oui, art brut, ça peut être quelque chose dit dans des soirées, mais si on s'y plonge vraiment, ça change la vie. Bon, l'art change la vie, évidemment, mais l'art brut, c'est quelque chose d'étonnant. Qu'est-ce que c'est que ce brut, cette chose directe, en fait, où il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mode, parce que ce qui est beau, c'est qu'il y a des textes du 19e et des textes du fin 20e. Et c'est comme s'ils n'ont pas pris l'air du temps, en fait. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans des modes, ils sont dans des hôpitaux psychiatriques et voilà, ils n'ont pas de culture, ils n'ont pas de mode. On se dit, tiens, c'est dans ce style-là. En fait, c'est vraiment de la pure création. Moi, je pense sincèrement que chaque auditeur ou nous, dans le studio, on a tous une grande, grande puissance créatrice. Et elle est un peu embêtée parce qu'il y a la société qui nous amène à faire ça ou ça. Le temps est compliqué de gérer ce temps qui passe si vite. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est que j'espère qu'en passant... que grâce à l'outil théâtre, c'est une vitrine pour donner envie que les gens accèdent à ça, ils s'y intéressent. Et cette Jacqueline de le dire, pour moi, c'est vrai que ça pourrait être troublant de prendre un enregistrement et le dire, c'est que se rendre compte qu'on est tout près, en fait, que nous tous, de toute façon, les spectateurs, à chaque fois, les rencontres sont bouleversantes, parce que chacun a vécu un moment personnel ou de famille proche avec la folie, en fait. Et beaucoup de gens ont très peur de la folie aussi. Moi, avant ce spectacle, j'avais très peur des fous dans la rue, les gens qui parlaient tout seuls, j'avais très peur. Maintenant, je fais attention de les écouter sans qu'ils voient que je les écoute. Donc, j'ai moins peur d'eux, vous voyez. Et c'est des miracles. Moi, j'ai entendu des choses dans le métro où j'ai me baladé dans une forêt. Il y avait quelqu'un qui parlait, qui gueulait aux animaux. Animaux! C'était très novarinien, comme ça. Et je l'ai écouté et c'était extraordinaire. Et je me dis, voilà, encore un grand qu'il faudrait choyer au lieu de le dénigrer, quoi.
C'est très important, je crois, de ne pas être dans l'espèce de jugement justement de ce qu'on appelle les arriérés ou les gens qui ont des difficultés. Enfin, ça rejoint toute une thématique dont j'essaye de parler dans ce livre qui s'appelle « Dans le désordre », qui est de réhabiliter le monde de la folie et de ne pas en avoir peur comme on a peur de la mort. On a peur de la mort, on a peur de la folie. C'est pour ça que mes spectacles, en général, traitent de l'un et de l'autre, ou de l'un ou de l'autre. Et je pense que c'est très important de réhabiliter la folie. C'est comme un accroissement de l'intelligence. S'il n'y avait pas eu de folie sur la Terre, l'intelligence n'en serait pas où elle en est. Et il n'y aurait pas d'œuvre de poète. Et je pense que le travail des écrivains, le travail de tous ceux qui créent, qui est un travail d'une espèce de maladie de l'imagination, d'une espèce d'excès d'imagination, et qui fait éclater la frontière entre le réel et l'imaginaire, justement. Et ça, c'est très proche de la maladie mentale. Je pense que c'est des explorations qui sont, en fait, sur des territoires tout à fait voisins, et même plus que voisins, c'est-à-dire des territoires qui communiquent par une espèce d'osmose. Donc, c'est assez de se vanter de la raison, d'être des êtres raisonnables. Et il faut jeter une oreille et un œil sur ce monde qu'on rejette d'une manière majoritaire, et que même, j'ai analysé, qu'on peut repérer les régimes politiques à leur position vis-à-vis de la folie.
C'est la voix de Claude Régis, qui était venu en 2012 au micro de Laura Adler dans l'émission Hors Champ sur France Culture, à l'occasion de la parution de son livre, très beau texte, qui s'appelle Dans le désordre, qui était paru aux éditions Actes Sud, et Claude Régis qui est mort le 26 décembre dernier. Olivier Martin-Salvant, il dit finalement, c'est parce que j'ai peur de la mort et peur de la folie que je ne fais que des spectacles qui traitent ou bien de l'un ou bien de l'autre ou bien des deux. Est-ce que vous savez, vous, ce qui fait que votre oreille a été sensible pendant ces 12 ans-là, vos yeux, votre corps, à ces textes-là, pour d'abord les aimanter, aller les chercher, les lire et ensuite en choisir pour les donner pour ce spectacle-là?
Oui, attendez, je vais juste rebondir sur ce Claude Régis. J'aurais rêvé de travailler avec lui. Ça me touche d'entendre. C'est étonnant, mais quel génie, quoi. Bon.
Pourquoi, alors, tant qu'on y est, pourquoi est-ce que vous auriez rêvé de travailler avec Claude Régis?
C'est le maître du temps, quoi. C'est-à-dire que j'aurais rêvé de travailler avec lui, parce que je voyais beaucoup ses spectacles, et même avant d'entrer en scène, je dis entrer en scène. Le public entre dans la salle, il était dans le public, et déjà, il avait mis en scène l'entrée du public, et tout était pensé, quoi. On en a encore, mais on n'a plus beaucoup de grands maîtres comme ça. J'espère qu'ils sont en train de grandir, nos grands maîtres, là. Mais c'est rigolo parce que, bon, c'est pas du tout pour me vanter, mais aujourd'hui, on m'a appelé 3 fois pour me proposer des spectacles. Et donc, on me propose souvent des choses. En tant qu'interprète. Moi, je monte mes propres projets et on m'engage en tant qu'interprète. Et je sais pas si j'accepterai quelque chose de ce qu'on m'a proposé, mais à chaque fois je rêvais, je me dis si un jour Claude Régis, j'avais envoyé un mail un jour, un ami qui est un auteur, poète et metteur en scène, Lazare, qui le connaissait très bien, m'a dit je te le présenterai, t'inquiète, il va vivre jusqu'à l'éternité. Et non, en fait, je l'ai raté, c'est dommage, mais ouais, non, mais c'est extraordinaire ces gens qu'on a pu croiser.
Et il y a un petit point commun, par exemple, si on reste encore un instant sur même ce que faisait Claude Régis au théâtre, ou ce qu'il faisait du théâtre, souvent par l'obscurité et les lumières qui faisaient qu'on n'était jamais sûr de ce qu'on voyait, que beaucoup de choses vibraient, disparaissaient, apparaissaient, etc. Moi, j'étais très touchée par le début de votre spectacle où, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, il y a comme une électricité dans l'air, en fait. Ouais. C'est quasiment un noir plateau, et puis il y a quelque chose qui bruisse, c'est métallique, on ne sait pas si c'est... Ça peut faire penser à, vous savez, les espèces de bougies d'anniversaire un peu métalliques qui pètent là dans tous les sens. Ça fait comme des espèces de micro-feux d'artifice. Et très rapidement, on se dit, c'est comme quand on a une idée. Ou c'est comme quand on a une alu ou un désir ou une envie qui s'allume. Comment vous l'avez pensé, ce début-là, dans l'obscurité?
Oui, parce que j'ai travaillé avec des gens que j'adore et qui je travaille depuis pas mal de temps, qui sont des plasticiens, Cléda Petit-Pierre, qui ont conçu la scénographie et les costumes. Et à chaque fois, ils me disent « Mais t'inquiète, laisse le temps, il faut que les gens rêvent, il faut que ça prenne beaucoup le temps. » Moi, c'est pour ça que Claude Régis me fait rêver, c'est que lui, il a pas peur de prendre ce temps-là, en fait. Et le spectateur, c'est encore le dernier endroit d'utopie au théâtre où on peut rêver, s'ennuyer, partir, revenir. Et ce début, j'ai voulu, en fait, on veut pas trop spoiler, mais il y a quelque chose avec du végétal qui sort de la cage où est interné, tiens, c'est marrant, où est enfermé Philippe Foch.
Et, le musicien,
ouais. Et donc, il sort, en fait, c'est des balais sénégalais pour nettoyer devant la porte. On voit pas du tout que c'est ça. Et en fait, quand on les voit apparaître, on voit comme des griffes, on voit pas. Et en fait, ça, je trouve ça génial, c'est que dès le début, il y a quelque chose où, j'ai travaillé aussi longtemps, je travaille toujours avec Benjamin Lazare, quelqu'un que j'aime très fort, et lui me dit toujours, c'est au spectateur de faire le premier pas. Et ça, j'aime bien cette phrase-là aussi. C'est-à-dire que si le spectateur dit à sa femme, bah, dis donc merci, hein, où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on allait voir, c'est pas le problème. À la fin du spectacle, il peut changer complètement d'avis et être bouleversé, avoir revu toute son existence par le biais d'un spectacle. À peine objectif, pas un petit objectif, mais au moins c'est clair. Et donc, ce début, on avait envie d'étirer la chose et puis que les choses apparaissent. C'est-à-dire que il faut pas mettre toutes les cartes sur la table. C'est-à-dire que une chose, hop. Un homme chauve, une masse comme ça, avec une grosse barbe, qui est habillé en robe, sur un tas. Vous voyez, en fait, on a déjà, il faut pas griller toutes les cartouches. Et en fait, comme ce tas, comme vous dites, ce poncho de 20 mètres carrés, il est puissant parce que on voit pas, on se dit, bon, c'est une petite boule d'habit. Puis tout d'un coup, quand il s'étale, il prend toute la scène. Puis après, je le jette, on dit, mais alors, ça avait l'air très lourd, en fait, c'est extrêmement léger. C'est comment, en fait, avant tout, moi, ce qui est bouleversant au théâtre, c'est que le spectateur vient faire la démarche de s'asseoir dans une salle, il a payé sa place, il est sorti de chez lui, de son boulot, et que nous, la mission n'est pas peu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à la hauteur. Et ce début, ouais, on laisse le temps comme ça, et ce spectacle, je sais qu'il va évoluer de plus en plus à moi, d'être un peu comme un animal qui fait un peu son truc, comme ces artistes d'art brut, en fait, eux, ils sont pas dans le faire, ils présentaient pas leurs œuvres, c'était pour eux. Et en fait, au théâtre, c'est assez rare. En plus, du théâtre d'art brut, c'est bizarre parce que le théâtre, étymologiquement, c'est l'endroit d'où l'on voit. Et donc, art brut, ce serait l'endroit en creux où on fait des trucs et les gens ne le voient pas et ça
disparaît. Mais d'ailleurs, il y a des textes qui vous traversent, oui. Et où il est question de, je sais plus très bien comment c'est, mais c'est, je peux pas faire mon malin devant un micro, je sais pas faire mon malin devant un micro.
Je sais pas faire de charme devant un micro, voilà. Moi. J'ai jamais aimé ça. C'est étonnant, ce truc de, moi j'aime pas, c'est-à-dire qu'elle était devant un micro quand elle a fait cet enregistrement, Jacqueline.
C'est Jacqueline?
Oui, ouais, c'est ça, c'est elle qui dit ça. Et pour revenir sur les questions des textes, comment ils sont venus, voilà. C'était intéressant parce que, en fait, ce que je trouve très beau, c'est le tout intuitif, en fait. Quand je disais avec Philippe, je te lis ce texte, et tout de suite, il jouait. Moi, je sais que quand j'ai travaillé sur des textes qui étaient très bouleversants, c'est de sentir qu'ils étaient en trois dimensions. Je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire que il y avait la chose, déjà, de la matière texte qui était belle. Et tout d'un coup, il y avait aussi, la rêverie, en fait, c'était une chose pleine, c'était comme une grosse boule comme ça qui nous arrivait, et à traiter, c'était quasi impossible. Moi, par exemple, je travaillais avec les acteurs de Catalyse, qui sont à Morlaix, qu'on voit souvent à Avignon dans le Hin, qui ont fait Kafka, qui ont fait un spectacle aussi sur Ludwig. Et eux, moi, j'ai travaillé avec eux, je voulais peut-être travailler, parce que c'est des gens en handicap lourd, qui sont acteurs, et ils font des improvisations que je trouvais magnifiques, mais en fait, ils font tellement d'improvisations théâtrales en apprenant des textes que tout d'un coup, tout devient un peu des réminiscences d'œuvres qu'ils ont travaillées. Et eux, quand ils travaillent, par exemple, on faisait un exercice, c'était genre un clap où on se donne de l'énergie, comme ça, tout début de matinée. Et là, tout d'un coup, eux, ils y allaient tellement fort, ils criaient, ils tombaient au sol, ils pleuraient, ils redonnaient l'énergie, comme ça. On avait fait juste un tour, après, on fait une pause.
Et
avec Philippe, on s'est dit, non, mais en fait, ils peuvent pas faire petit, quoi. Ils peuvent pas faire à moitié. C'est-à-dire que pour eux, c'est leur manière de s'exprimer au monde. Moi, ces textes qui me touchent, c'est qu'on sent que c'est dans le chat de l'aiguille, c'est là où ils peuvent s'exprimer. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous êtes internés, vous êtes pas dans la société. Moi, j'ai eu un grand échec scolaire, j'ai arrêté en troisième, j'étais persuadé d'être complètement abruti. Et j'ai découvert le théâtre à 12 ans. Et je dis, tiens, et j'étais très très dernier, et là tout d'un coup j'étais premier. Et je me suis dit, tiens, en fait, l'intelligence intuitive, on peut devenir un grand érudit tout en ayant raté complètement l'école, en fait. Et ça, je trouvais ça incroyable, d'être autodidacte aussi. Tout d'un coup, je dis, oh, j'ai découvert, j'arrivais à 19 ans à Paris, et j'ai dit à mes parents, je dis, j'ai découvert William Shakespeare. Mais génial. Et mes parents, ah bon? Donc, ouais, d'un coup, j'avais découvert un trésor caché. Et petit à petit, je me rendais compte, les gens en avaient entendu parler.
Ça dépend qui.
Ça dépend qui encore. Bah, sauter sur les livres. Et tout d'un coup, là, maintenant, je découvre des écrits d'art brut dans des cartons. Et c'est cette même démarche-là, en fait, de moi, mais en fait, j'espère que tout le monde connaît ça. Et en fait, je me rends compte que personne connaît parce que c'était pas du tout visible. Et puis même, j'ai pas sauvé, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, ça, on allait le jeter. Il y a eu beaucoup de choses détruites, même à Saint-Alban, dans d'autres centres. J'allais beaucoup dans les instituts, à la collection de Lausanne ou au LAM. Et ils me disaient, on est désolé parce que nous, l'écrit d'art brut, on a tellement d'œuvres qui arrivent de peinture et de sculpture que les écrits, on n'a pas trop le temps de les traiter. Moi, je dis, il n'y a aucun problème. Moi, je suis un acteur. Je travaille sur Rabelais, sur Novarina. C'est mon chemin. et je vous donnerai tout le stock que je trouve, quoi. J'ai même rencontré un berger qui gravait, ben, je l'ai pas rencontré, mais quelqu'un m'en a parlé, je suis allé voir les arbres où il gravait des poèmes pendant qu'il était avec ses bêtes, dans sa voix, et ça, je trouvais ça bouleversant. Et je me dis, voilà, c'est cette chose tout à fait simple. Mais moi, je pousse les gens à écrire, faut écrire. Moi, je pousse tous mes amis autour de dire, mais écrivez, dites à vos parents d'écrire, c'est important, en fait, de créer. Je trouve que c'est, on irait bien mieux si on créait tous. C'est vrai, non?
Vous êtes sûr?
Ah, je crois. Je crois que c'est nécessaire. On est tous des créateurs. On dit il y a du talent ou du machin. Oui, mais c'est le travail. Je vois bien. Moi, j'ai fait une école de théâtre. Là, je suis parrain de l'école de la Comédie de Saint-Étienne. Je suis parrain de 10 élèves. Là, j'ai fait les auditions et ils sortent en juin 2021. Et j'arrête pas de leur dire. Je suis pas sûr que ce soit le plus talentueux qui vont réussir ce métier. C'est-à-dire que c'est de faire déployer son imaginaire, de faire un chemin intérieur et de travailler très fort. Et nous, au théâtre, Novarina disait, l'homme vient voir l'homme, regarder l'homme. Il a écrit ça. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. On voit bien que maintenant, les Égyptiens ont fait du théâtre. Mais moi, il y a aucun doute qu'il y a depuis la nuit des temps, il y a du théâtre, la représentation.
Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de se regarder? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de venir s'écouter?
Bah, moi, je pense que on sera jamais battu par toutes les nouvelles technologies parce que c'est très archaïque, quoi. C'est-à-dire que on vient. Moi, je sais que quand je joue, je sens que les gens respirent à la même vitesse. Ils respirent avec moi. Quand je suis stressé, je sens que la représentation est pas bonne parce que j'ai stressé le public comme un animal, quoi. C'est-à-dire que je pense vraiment à convoquer les fantômes, un peu du chamanisme, quoi. On essaye. C'est quand même fou. Comme je pense que si les extraterrestres dirait qu'est-ce qui est étrange comme ça sur cette terre, il dit bon, il y a des choses étranges, mais ces gens qui se retrouvent à la même heure là et qui après les gens tapent dans des mains et d'autres ils se penchent comme ça devant, c'est quand même extrêmement étrange ce rituel. Et en fait, c'est ce plaisir du rituel, quoi. Les gens viennent pour ce rituel. Il y avait à la grotte Chauvet au Moyen-Âge, c'est marrant, on croit toujours Moyen-Âge avec des gueux machin, mais je pense qu'ils étaient tout à fait comme nous et que voilà, ils faisaient des mystères pour eux parce qu'il fallait créer ce rituel dans la ville, il fallait que la ville soit unie, qu'on soit ensemble et qu'on crée une chose, on parle à lieu direct qu'on prenne pas de travées extérieures. Il y a cette chose très droite comme ça dans l'art que je trouve très beau. Et eux, il n'y a pas du tout de... Ils se posent pas la question. Les artistes que j'ai rencontrés, comme André Robillard, qui était venu en répétition au 104, il m'a dit « Si tu veux, je parle martien. » Et moi, je dis « Comment ça, André ?» Il me dit « Bah moi, les martiens, quand je dormais, ils m'ont appris le martien, je te le fais. » Et comme il me le disait, il n'y a pas le doute qu'ils lui ont appris. Et là, il était là, « Bah, je ne sais pas, comme ça va. » Et à un moment, je me dis, est-ce que je dis ce texte? Ça serait fou d'enregistrer aussi André Robillard et le dire. Et après, j'avais compris qu'avec un autre artiste, ils avaient écrit un peu le truc. Donc, il est malin. Mais il a aucun problème. Il dit, je te fais un fusil, là. Vas-y, hop, tiens, c'est un russe. Et lui, depuis l'âge de 8 ans, il est interné. Il en a 88. Et à l'hôpital à Orléans où il est, ils lui ont mis un petit atelier parce qu'il sait ce qu'il fait des expositions. Et lui, il m'a dit, j'aurais pas rêvé meilleure vie. C'est étonnant comme chose. Il a dit, j'ai pu vivre ma vie d'artiste et je sais que dans ma vie, on m'aurait dit non, t'es un artiste, c'est bizarre. Il dit, j'aurais pas espéré mieux comme destinée. C'est étonnant, hein.
Bon, c'est surtout très étonnant quand on sait nombre de souffrances dans les hôpitaux psychiatriques en France.
Ouais. Et puis dans les textes, on entend les choses de la nourriture, comme Pilonel demande une grande liste de nourriture. C'est qu'on sait bien qu'à son époque, en 43, pendant la guerre, même en Suisse, ben voilà, on sait ce qu'il y a eu pour Artaud, mais on sait que tous les hôpitaux, la violence, en fait, on a vu beaucoup de reportages.
Et il rêve, il dit « amène-moi ça,
ouais, amène-moi ça ». Ouais, c'est beau. Des bonbonnies au chocolat, elle lui demande. Et après, je crois que c'était des choses inventées, mais en fait, il y a beaucoup, il y a deux, trois choses inventées, mais il y a beaucoup de plats traditionnels de Fribourg. Donc comme ça, on découvre le coin de Suisse où elle veut vraiment des choses. Ce qui est fort, c'est que cette femme, elle parle à son mari, à ses enfants, elle dit « j'aimerais se faire du bien et pour le trou du cul du bonheur, de la prospérité ». Elle parle comme ça à son époux, elle veut voir ses enfants et elle demande une longue liste d'une page de courses. Et ce qui est troublant, c'est que j'ai parlé avec la collection de Fribourg qui m'a dit « bah en fait, on connaît pas trop de sa vie et surtout, je pense qu'on est assez sûr qu'elle n'a jamais eu de mari ni d'époux, d'enfants ».
Ah, je me
suis dit ça. Ouais. Et en fait, elle écrivait, comme le Père Noël, ils font « oui, on va poster la lettre ». Et puis, ils l'ont gardé. Et ce stock, il était dans un placard de bureau. Et ils ont fait « tiens, on va donner ça à la collection d'art brut de Lausanne parce que ça va les intéresser ». Et c'est, je trouve ça très bouleversant.
Je me suis dit ça parce que quand même, en terminant, viens me chercher au plus vide.
Ouais.
On se dit que peut-être il y a quelque chose qui...
Vous avez bien cerné le truc. Hein.
Pour ce qui est d'aller dans la Lune, mon impression est qu'on n'ira pas de sitôt. Je n'en ai d'ailleurs pas la moindre envie. Et même si l'autobus y menait en 2 heures, je ne crois pas que je me dérangerais. Il y a bien assez de choses intéressantes à voir sans se déranger tant. C'est une erreur très commune de croire qu'il faut se déranger pour aller voir très loin des lieux supposés plus intéressants que ceux où on se trouve. Si on ne sait pas prendre intérêt à ceux où on se trouve, on ne prendra pas intérêt non plus à ceux qu'on va voir. Ce qui est utile, c'est d'apprendre à regarder les choses et non pas de se casser la tête à en trouver toujours des nouvelles, sans faire aucun progrès dans l'art de les regarder. À mesure qu'on fait du progrès dans ce sens, on prend conscience du caractère de profusion des choses qui s'offrent au regard, et l'idée d'en augmenter le nombre apparaît de plus en plus oiseuse. Mais au surplus, ces manipulations d'idées m'apparaissent peu fécondes, et j'aimerais beaucoup mieux vous faire entendre un peu de musique.
Il se présente lui-même, mais je vais le dire, c'est la voix de Willie Barbie qui chante A Wonderful Day. Évidemment, c'est pas ça que voulait faire entendre Jean Dubuffet dans l'archive qu'on a diffusée juste avant, mais c'est une voix suffisamment prenante pour que ça aille très bien. Dans cette archive, Dubuffet dit finalement, il faut apprendre à regarder, peut-être que à mieux regarder ce qu'on a autour de nous, tout proche, à le regarder avec précision et attention, on verra que augmenter les choses ou être dans la profusion n'a plus beaucoup de sens, c'est oiseux, dit même Dubuffet. Qu'est-ce qu'on apprend à mieux regarder ou peut-être à mieux entendre en travaillant pendant des années sur ce genre de d'écrit brut, Olivier Martin Salvan?
Ben, c'est les gens qu'on regarde mieux et qu'on entend mieux. Bon, c'est un peu facile de dire comme ça, mais si, c'est vraiment
ça. Mais
c'est
difficile à faire.
Oui, c'est difficile à faire. C'est comme souvent dans des pratiques comme le chant lyrique que j'avais travaillé ou la danse. C'est pas facile, mais c'est simple. C'est pas mal. Je pense que la nuance c'est très difficile. C'est pas facile, mais c'est simple. Et c'est marrant parce que Jean Dubuffet, c'est joli de l'entendre parler. Je sais que moi, voilà, on comprend que j'ai un lien très fort avec Valère Novarina, qui lui, à l'âge de 18 ans, pour ceux qui ne connaissent pas son écriture, c'est quelqu'un qui déstructure le langage, Valère Novarina. Et en fait, ça a toujours
été... Je dis beaucoup que ça smash, que ça passe par la bouche, le ventre, le souffle.
Il nous parle d'acteur tuyau, quelque chose de... Voilà, vraiment vraiment un artiste d'art brut, Valère, même si lui, il a appris, c'est toujours ce truc que dit Jean Dubuffet, c'est que des gens qui n'ont pas appris, qui sont hors des cadres sociaux et des cadres de conservatoire, tout ça, ou qui ont appris, quoi. Mais Jean Dubuffet, en fait, rencontre le jeune Valère Novarina à l'âge de 18 ans, et le vieux Jean Dubuffet lui dit « Mais il faut pas que tu aies peur de ton écriture, je sais que tes parents... » t'ont convoqué pour te dire qu'ils comprenaient strictement rien à ce que tu écrivais. Donc il était dévasté en se disant « je ne ferai jamais rien, j'arrive pas à écrire comme Marivaux ». Et Dubuffet lui a fait découvrir des textes d'art brut. Et ça a été un déclencheur pour Valère. Et ça, c'était beau que la générosité de cet homme, Jean Dubuffet, il y a un livre, je ne sais plus dans quelle édition il est, où il y a des échanges entre Jean Dubuffet et Valère Novarina que je trouve très très bouleversant, d'un artiste qui allait au bout de sa vie d'artiste et aussi de découvreur de talent et qui découvre ce jeune Valère Novarina qui pour moi est un des très grands du XXe siècle, même du XXIe. Et moi, ça me permet d'être aux origines de l'écriture de Valère, de ses déclencheurs de son écriture. Et moi, avec Valère Novarina, j'avais déjà senti ce travail que voilà, la nécessité de parler aux gens. Lui, il dit toujours qu'il fait du théâtre forain, du théâtre populaire. Et c'est vrai que je vois quelque chose de rural, quelque chose de très droit. Par exemple, quand on va dans les campagnes profondes, ça fait toujours drôle, nous, Parisiens, d'arriver à la campagne, moi, où je suis né, hein, d'être avec des gens qui se parlent tout droit, quoi, qui disent tout de suite, dis donc, je te parle, tiens, donne-moi ton truc. Et ça me ramène aussi à cette chose première de la relation. Et ce qui est beau aussi dans l'art brut, c'est qu'ils se posent pas la question du support. Il y a une planche, ils prennent, ils dessinent sur des emballages. Annette, elle a écrit sur un bloc-notes usé. Marguerite Pilonel, elle brodait dans des doublures de vestes, des textes. Et donc voilà, elle brodait, elle parlait beaucoup de sa dot, d'avoir une dot, des draps brodés, tant que son mari allait revenir et tout le monde savait qu'il avait été tué sur le front. Et des voix schizophrènes lui parlaient, lui dire que de toute façon il est mort. Et elle rejetait cette maladie schizophrénique pour dire, sous le sol pleureur, elle attendait son époux qui allait revenir avec son habit de guerre. Et il y a quelque chose comme ça où de toute façon il faut qu'elle s'exprime. Et quand je rencontre des artistes d'art brut, on va dire des gens internés ou des gens autistes, ils ont cette chose-là, ils viennent tout de suite se coller à moi, ou on s'embrasse. Et moi, j'ai cette chose aussi de toucher les gens, d'être avec... C'est-à-dire que ça me ramène aussi... J'avais un oncle, moi, qui est maintenant dans le sud de la France, qui, en fait, est arrivé à l'âge de 19 ans à Paris, en tant que Golden Boy dans les années 50.
C'est quoi
Golden Boy, c'est le loup de Wall Street, quoi. C'est des gens de la bourse, quoi. Il arrivait, il travaillait encore avec les bouliers, tout ça. Et en fait, en 3 mois, il venait vraiment de la campagne aveyronnaise. C'est le grand frère de ma mère. Il est arrivé dans la ville, il a découvert ce monde. Et il a pété un plomb, hein. De toute façon, les gens l'appelaient le fou. Et donc, il est parti dans les villages aveyronnais. Il sculptait des petites statuettes. Il échangeait ça contre des outils pour ses statues et des endroits où il pouvait vivre et se nourrir. Il échangeait, quoi. Il chassait. Et donc, Novarina m'avait dit, mais ton oncle, c'est un artiste d'art brut. Et il me dit, tu devrais te renseigner à Bourges. Il y a Marcel Bascoulard, qui est un homme qui a s'habillé de ses propres robes et qui dessinait la ville de Bourges avec un crayon mâchouillé. Et donc il était rejeté dans la ville, il traitait de pédé, il lui jetait des pierres. Et Marcel Bascoulard avait écrit, je mets la tenue vestimentaire féminine parce que je sens que c'est la tenue où je me sens fort. En fait, il se dit pas une femme, mais c'est qu'il sentait. Et c'est vrai que moi qui mets des robes tout le spectacle, je sens que l'habit fort, c'est la robe. Oui, ça, c'est clair. Et ce Marcel Bascoulard, ce qui était troublant, c'est qu'il dessinait la ville de Bourges d'une précision incroyable. Il échangeait ça contre des tissus, de la nourriture. Et aujourd'hui, bon, c'est un peu troublant, c'est que les dessins se vendent entre 6 et 20 000 euros maintenant. Donc, dans la ville de Bourges, il y a des gens qui ont des cartons entiers de ces dessins, de cet homme qui était dans la ville, qui se grattait pour pas que les enfants l'embêtent trop, et qui a été un peu rejeté par la ville, on va dire, et maintenant qui devient le héros maintenant de la ville, parce que le petit palais s'y intéresse, Martin Provost, je sais qu'il s'intéresse à une adaptation du film.
S'il y a de l'argent à faire, il y aura toujours du monde.
Mais voilà, ces gens, ces reclus de la société, ces gens qu'on prend pour fous, qu'est-ce que ça pose comme question et ouais, cette chose très directe comme ça, de se dire, bah j'essaye d'être avec les auditeurs, d'essayer de toucher un peu profondément, de fendre l'armure. Et c'est ça qu'ils font, c'est que ces artistes-là, ils ont un besoin de l'autre en fait. Et c'est vrai que très vite, on se blinde dans nos trucs, dans nos petits cocons. Mais moi, j'ai fait du rugby aussi, la mêlée, je crois beaucoup au collectif, à 8 pour pouvoir être puissant, et que on peut être beaucoup moins fort, mais si on est bien organisé, on peut gagner une mêlée, vous voyez. Je pourrais en parler, on ferait une émission sur la mêlée.
En gros, soyons collectifs, 8 au minimum, bien serrés et portons des robes.
Voilà, et prenons les plus faibles sur nos
épaules. Dans la mêlée.
Voilà.
On va continuer de parler tissu, parce que c'est très important,
oui.
La place de ces robes, de ces costumes. On va écouter le danseur et chorégraphe François Chéniaud.
Pour moi, en fait, le costume, il est indissociable de la danse. Si on imagine que la danse, c'est un art de l'invention de soi, de l'invention d'un corps. En un sens, le costume, il réorganise les organes, et réorganiser les organes ou les entrailles, pour moi, c'est le début de la danse. C'est-à-dire que la danse, c'est pas juste agencer des frappes de pied et des mouvements de bras. C'est soit se fantasmer, soit s'inventer, soit documenter un corps. Et après, il y a toutes sortes de... Mais pour moi, le costume, il est la première danse, en fait, parce que effectivement, je rêve d'ailleurs de faire un prochain spectacle avec des corsets, mais pas du tout dans une esthétique libertine ou un peu de cocotte, mais plutôt justement pour la possibilité de ces textures que ça viendrait rigidifier, amollir, re-rythmer en un sens l'alternance du mou et du dur dans le corps.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux, avec Olivier Martin-Salvant.
La voix de François Chéniaud qui dit que le costume réorganise les organes et que c'est le début là d'une danse. J'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu quand même, Olivier Martin-Salvant, sur bien sûr cette robe que vous portez, mais aussi toutes ces robes qui sont cousues les unes et les autres, parce que elles sont plein de choses pour moi.
Oui. Ben, on est constitué de nos habits aussi, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un tissu. Je sais qu'on dit ce pull je l'adore et on revoit ses habits d'adolescent, on fait mon Dieu. Je sais pas, vous voyez, c'est notre histoire aussi, l'habit, le tissu. Moi des fois j'en ai un peu marre de la mode ou comment être bien habillé ou pas habillé. Et je m'étais dit, tiens, ce serait bien qu'on remette des peaux de bête, des fois, c'est quand même, ça serait intéressant. Mais c'est vrai que il est intéressant, François. De toute façon, c'est un artiste incroyable, un interprète époustouflant. Et, c'est intéressant, le dur et le mou, j'aime bien ce qu'il dit. C'est-à-dire que, par exemple, dans cette grand pancho, comme on dit, ce doudou, même à un moment, je l'appelais comme ça. Parce que même quand je fais des pauses, je dors dedans, vous voyez, c'est devenu vraiment quelque chose de très, voilà, très intime. Et même Corinne Petit-Pierre, la costumière, qui a fait un travail époustouflant, elle a récupéré son stock et elle s'est dit, c'est marrant, j'ai presque mis des tissus que je savais pas quoi en faire un jour. J'ai récupéré des habits d'une artiste japonaise qui était un peu bizarre et qui avait des habits très étranges. Et tout d'un coup, elle a repris tout son stock et elle s'est dit, c'est marrant, chaque tissu a une histoire, mais ça pourrait être une digression d'une histoire, d'un spectacle. Il pourrait y avoir, je sais pas comment s'appelait cette japonaise, mais il m'a dit comme ça, et puis elle me dit, tiens, bah ça, c'est mon mari, bah Yvan Cléda, le scénographe, c'est un petit gilet quand il avait enfant, donc on l'a mis dedans, et elle m'a dit, on va se partir sur le coloré aussi, parce que c'est vrai que dans l'art brut, comme Aloïse, ou souvent dans l'art brut, il y a quelque chose de se sortir du...
C'est une artiste qui est exposée à Lausanne.
Qui est à Lausanne, oui, qu'il faut voir. Et c'est souvent très coloré, l'art brut, parce que aussi, c'est se sortir de ces endroits enfermés, très sombres, et que, en fait, leur créativité est très colorée et très lumineuse. Et quand on parlait de Mac de Gilles, qui a fait sa robe de mariée avec des morceaux de tissu qu'elle avait, qui étaient de son histoire, ça, je trouve ça assez bouleversant, même par exemple dans les actions culturelles qu'on fait dans des théâtres. On fait un atelier, on demande aux gens après le spectacle de prendre des habits, des tissus qu'ils aiment et d'en faire une robe avec l'assistante de Corinne qui fait ça. Et c'est un atelier génial, ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qui sortent de ça. Parce que les gens repartent avec une grande robe de leur tissu, de leur vie.
Mais d'ailleurs, il en est question de ces toilettes, de ce qu'on porte, oui. de la façon dont on s'habille. Oui. C'est dans le moment de Jacqueline qu'il est question de ça.
Et alors, m'habiller, c'est la seule chose qui m'intéresse dans ma vie, mais je suis toute seule. Elle dit ça c'est incroyable. Mais il y a beaucoup l'habit, ils parlent beaucoup de ça, ouais. Que c'est leur identité aussi, c'est leur armure. Marcel Bascoulard parlait de ça. Dans la ville de Bourges, il faut imaginer, il était des fois avec des robes, mais vraiment Elisabeth Taine, il y avait tous les styles, quoi, comme celle du début du spectacle. Et il avait jusqu'à 12 robes l'une sur l'autre. C'est-à-dire qu'il fallait imaginer ce clochard qui se baladait avec ses robes. Et lui, donc c'était sa richesse aussi, c'était sa valeur. Quand on parle de la dot, bah les tissus brodés, tout ça. Et c'est marrant, il y avait parce que j'ai vu beaucoup aussi de spirit ou de gens qu'on leur parlait, comme Augustin Lesage, qui était un mineur, qui tout d'un coup, on lui dit, tu es un artiste, il faut que tu ailles peindre. Et on lui soufflait ce qu'il fallait qu'il fasse. Et à chaque fois, il dit, je sais pas, on me dit de faire ça. Il a pas été interné, mais il a été, c'est maintenant une star de l'art brut. Et il y avait une femme aussi qui cousait comme ça, qui faisait des formes, qui recouvrait des objets par des tissus pour qu'ils disparaissent et qu'ils soient mis en valeur par les tissus qu'elle trouvait. Et toujours les matières, les moins nobles devenaient les plus belles. Il y a quelque chose de troublant, ouais, comme Jacqueline qui dit mais c'est ces habits à moi, mes appareils de soins de beauté. Mmh. En fait, c'est pas forcément la possession de la valeur marchande, c'est que il y a plus que ça dans sa vie, en fait. C'est-à-dire que ce qui est beau, c'est qu'il, je me suis rendu compte, fallait pas qu'elle se plaigne, qu'elle dise juste voilà, c'est comme ça. Après, on va dire que ce monsieur Berry, il a fait ce qu'il voulait, tout ça. Mais moi, je vous dis, c'est lui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit toujours, c'est les autres, les fous. Pourquoi on m'enferme moi?
Elle dit beaucoup, etc. Aussi.
Etc. Dit-il, elle dit beaucoup ça. Foucault disait, de l'homme à l'homme vrai, le chemin passe par l'homme fou. Là, je voulais le dire, ça, parce que je trouve que c'est une phrase qui est puissante. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand on est comédien, acteur, on est, notre personnage, on le défend, même si on joue un tyran. Mais là, c'est que j'ai même pas à jouer quelque chose. C'est-à-dire que c'est des paroles où...
Mais d'ailleurs, on sent, parce que quand les mots de Jacqueline vous reviennent, ils sont très présents.
Oui, j'ai très envie qu'on les découvre et qu'on les aime, en fait. C'est vraiment, et qu'on se rende compte qu'on doit les, voilà, ces tissus aussi, c'est marrant que vous parliez des tissus, parce que je me dis à chaque fois que tous ces tissus ont tous des histoires. Moi, j'aime beaucoup la digression, par exemple.
Non, je sais pas, en fait, oui, il y a quelqu'un qui tape sur le mur du studio. Ouais, je sais pas, c'est peut-être les fantômes. Mais ça tape très, très fort.
Ouais.
Bon, si un fantôme veut rentrer, qu'il le fasse maintenant ou qu'il ne le fasse plus, jamais.
Ou qu'il se taise à jamais.
Ou qu'il se taise à jamais, non. Fantôme. Ok. Il ne veut pas rentrer. Il est timide. C'est un fantôme timide.
C'est un fantôme timide, il a raison.
On va finir en parlant un petit peu de musique, parce que je le disais, c'est tout sauf un détail, la présence de la musique et la présence de ce musicien dans la cage juste à côté de vous. Et on va écouter Joël Leandre.
L'improvisation ne s'improvise pas. C'est aussi une mise en danger, mais rapidement dans l'instant même de débuter un premier son. Avec ton collègue, qu'il soit trompette, sax, piano, cello, ou texte, c'est cette responsabilité de comment construire. C'est une mise en danger, c'est une jubilation, c'est un risque, et c'est une écriture. L'improvisation ne s'improvise pas. C'est un immense travail d'improviser. D'où d'ailleurs ce terme, je vais t'improviser un gâteau, je mettrai peut-être un peu de farine, un peu de je sais pas quoi, du chocolat, espérant que je mette pas trop dessus. Bref, tu vas improviser un gâteau, peut-être que le gâteau ça sera de la merde, tu vois. Non, c'est un moment rare, tu peux plus revenir dessus, et c'est pimenté, je sais pas comment dire, d'être avec l'autre et de mettre en forme une chose. Évidemment qu'on peut pas y revenir dessus. Qu'il y a des ratages, qu'il y a des questionnements. Mais est-ce que tu crois pas que dans la vie et tous les jours, t'as pas des questionnements et que toute ta journée, elle est parfaite? Tu crois pas qu'il y a des journées que t'es complètement, que tu vas à droite, il fallait pas, merde, je devais appeler de Marc hier. Oh, bon, tac, t'as le téléphone qui sonne. Oh, bon, oh, j'ai oublié de me laver les dents. Avant, tac, bon, bah, on n'arrête pas d'improviser. Sans arrêt, on improvise. Sans arrêt. Et c'est en même temps, tu as deux, trois piliers. Tu sais qu'à midi, tu dois aller au garage. Et qu'à 5 heures, j'invente, tu dois aller chercher, aller au docteur. Ça, tu le fais. Et au milieu, donc, il y a bien des points qui font que la journée va se construire. Donc, improviser, c'est composer. Taxi ! Taxi !
Bon voilà, évidemment, improviser, c'est composer. On entendait ici la musicienne Joëlle Lehendre. Quels sont les piliers par lesquels vous savez que vous allez passer, Olivier Martin-Salvant, les endroits où vous vous retrouvez avec Philippe Foch? Est-ce que c'est que les textes? Est-ce qu'on peut parler d'improvisation de sa part? Quelle est la liberté de son langage?
Philippe est un grand improvisateur aussi, mais il parle aussi de composition. Par exemple, lui, il se pose la question des droits pour des improvisateurs. C'est compliqué, c'est des questions dont on se parlait. Bon, on va pas débattre de ça, mais Philippe, on a des points de rendez-vous. Philippe, au fond, il a composé avec il a des repères, en fait. Et c'est vrai qu'au début, le problème qu'on avait eu, c'est que ça s'accompagnait beaucoup. On a eu Erwan Keravec, qui est un sonore de cornemuse, qui est un très grand musicien et aussi qui a une grande intelligence. Il nous a beaucoup aidé sur une oreille extérieure. Il nous a dit que faites attention parce que là, vous faites de l'accompagnement. Et donc, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'en fait, que c'était plus, deux saumons qui remontaient la rivière et que voilà, ça luttait et que c'est plus en, c'est marrant, c'était plus en se combattant et d'essayer de lutter que c'est là où on se retrouve. Et ça, ça a été un travail hyper intéressant que lui doit faire un chemin et moi je vais dans l'autre. C'est deux forces, en fait, qui s'associent pour faire entendre ces œuvres-là. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup traité le fait c'est un peu les voix que j'entends dans ma tête aussi, la schizophrénie. Donc, à chaque fois, c'est nouveau parce que ça dépend. C'est ça aussi qui est magique au théâtre. Ça, c'est pour ça que les salles sont pleines. C'est que, en fait, on vient entendre un miracle que chaque représentation, tout est remis en jeu, quoi. Surtout sur ces œuvres-là. C'est-à-dire qu'elles sont jetées dans l'air. Ça frappe l'oreille avec un autre son et nous on peut pas les caler au huitième de seconde. C'est comment la réception du public, on sent les vagues de ce qui se passe dans la salle qui fait que la représentation, c'est grâce au spectateur que le spectacle prend ou pas, ça c'est évident. Des fois nous on est moins bon, mais c'est ce qu'il y a dans l'air, en fait. Quelle vibration va-t-il y avoir? Philippe joue de la cage, joue du fer, de la pierre, des végétaux, et lui aussi fait résonner quelque chose de préhistorique, comme il dit, il fait résonner la matière brute, ouais.
Jacqueline écrit Brut, c'est le titre de ce spectacle. Il joue encore donc jusqu'au 16 janvier au 104 à Paris, puis on mettra toutes les autres dates de tournée. Merci beaucoup, Olivier Martin-Salvant. Je tiens juste à dire que cette émission a lieu alors qu'un préavis de grève court encore à Radio France. J'invite nos auditrices et nos auditeurs à se renseigner, à lire des textes, à écouter Radio Dedans Dehors, à lire des tribunes ou des articles de presse. C'est pour ça qu'on n'est pas là tous les soirs. À la prise de son ce soir, c'était Amandine Grevoz. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Louque Vauvillier, Marie-Anne Chassor, Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos et Lucie Riandet. C'est aussi un podcast via les applications, par exemple celle de Radio France et un site internet franceculture.fr à la page de Par les temps qui courent. Très belle soirée à vous. Dans un instant, le journal de France Culture.